La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, troisième jour spécial Charlus dans notre série Proust Premier Mouvement, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Coppelia Menardi, Chloé Kaczmarek et David Jakubowiez, avec à la technique Alexandre Dang. Marcel Proust a eu une vie, et quoi qu'il en ait dit lui-même, celle-ci n'est pas tout à fait étrangère à son œuvre. On pourrait même dire qu'elle en est, dans un certain sens, le préambule. Et raconter l'histoire de la vie de Marcel, c'est raconter la gestation du roman, l'invention du narrateur, à la recherche du temps perdu. La biographie, c'était lundi et c'était avec Jean-Yves Tadier. Cette émission reste disponible en podcast. Il n'y avait pas de temps à perdre pour Marcel Proust qui sentait la maladie le rattraper inexorablement, alors qu'il lui fallait terminer sa recherche aussi. A-t-il vaillamment combattu son asthme au point de devenir un quasi-spécialiste en la matière, comme nous le racontait hier le médecin François-Bernard Michel en seconde partie d'une émission entamée par Michel Herman, l'auteur des 100 mots de Proust. Et puis demain, nous terminerons notre premier parcours dans l'œuvre de Proust, et qui en appellera peut-être d'autres, en recevant Michel Schneider d'abord, puis Pierre-Yves Leprince, le premier pour son livre « L'auteur, l'autre », sous-titré « Proust et son double », et le second pour « Les enquêtes » de Monsieur Proust, deux ouvrages parus sous la couverture de la collection Blanche. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du fameux personnage de Charlus, je reçois Philippe Berthier, professeur de littérature à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'œuvre de Stendhal, mais aussi de Barbet d'Aurevilly, Chateaubriand et d'autres encore, dont Proust, évidemment, comme nous allons le voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
La singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Pourtant, sa mise extrêmement soignée était beaucoup plus grave et beaucoup plus simple que celle de tous les baigneurs que je voyais à Balbec, et rassurante pour mon veston si souvent humilié par la blancheur éclatante et banale de leur costume de plage. Mais ma grand-mère venait à ma rencontre, nous fîmes un tour ensemble, et je l'attendais, une heure après, devant l'hôtel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir Madame de Villeparisis avec Robert de Saint-Loup, et l'inconnu qui m'avait regardé si fixement devant le casino. Avec la rapidité d'un éclair, son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, comme s'il ne m'avait pas vu, se ranger, un peu bas, devant ses yeux, émoussés, comme le regard neutre qui feint de ne rien voir au dehors et n'est capable de rien lire au dedans. Le regard qui exprime seulement la satisfaction de sentir autour de soi les cils qui l'écartent de sa rondeur béate, le regard dévot et confit qu'ont certains hypocrites, le regard fat qu'ont certains sots.
Un extrait d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs, lu par Lambert Wilson. C'est dans le coffret des éditions Télème et c'est une première lecture qui nous permet de faire un portrait rapide de Charlus dont nous allons parler aujourd'hui avec vous. Bonjour Philippe Berthier.
Bonjour.
Alors en 2015, aux éditions de Fallois, vous avez publié cet essai intitulé Saint-Loup. Et aujourd'hui, eh bien, vous en faites un diptyque avec un autre essai intitulé Charlus, qui est son oncle. Pourquoi l'un a-t-il appelé comme cela l'autre ?
Au début, je n'avais pas du tout pensé à m'intéresser à Charlus, qui est tellement connu que je me semblais une tentative assez désespérée de croire apporter jusqu'à un brin de nouveauté là-dessus. D'ailleurs, peut-être que je l'ai malgré moi-même prouvé par mon deuxième essai. Mais il m'a paru assez logique tout de même de remonter du neveu à l'oncle lorsque je prêtais attention à cette véritable petite théorisation que Proust a proposée opposer des rapports entre oncle et neveu. Il renvoie une pièce de Schiller qui s'appelle « Oncle et neveu ». Et il y a une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Il dit « On n'est pas impunément le neveu de quelqu'un ». C'est-à-dire que Saint-Loup, qui a collectionné les conquêtes féminines, qui est un Casanova légendaire, découvre sur le tard une homosexualité dont il sans doute lui-même ne se doutait pas et dont personne autour de lui ne pouvait imaginer qu'il la mettrait en œuvre. Et pourquoi ? N'est-ce pas parce que dans le sang, il y a quelque chose qui descend et qui vient de son oncle. D'ailleurs, lorsque Charlus apprend avec stupeur que son neveu partageait les mêmes goûts que lui, il s'écrie comiquement « Ah, si j'avais su !»
Si j'avais su quoi, alors
bien entendu. Donc on rêve, qu'est-ce qui se serait passé ? Ils auraient peut-être chassé en meute à deux, enfin bon, le même gibier, on ne sait pas, mais Charlus tombe de haut en disant « Comment ai-je pu ne pas comprendre ? Moi qui vois des homosexuels partout, j'en avais un à côté de moi et de ma famille, et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas deviné. » Donc ça m'a intrigué et j'ai voulu tâcher d'aller voir d'un petit peu plus près.
Il n'y a pas encore d'autres neveux comme ça dans la recherche que vous
pourriez... Écoutez, je ne sais pas, il faudrait demander à de plus spécialistes que moi. Je ne me propose pas du tout en spécialiste proustien. Je suis un lecteur de base et sans doute un proustologue patenté pourrait répondre à votre question.
Donc il y a alors ce diptyque Saint-Loup-Charlus et il y a un autre diptyque qui est plus évident et c'est par celui-là finalement que vous commencez. C'est Charlus Montesquieu, le personnage qui n'est pas là, personnage de roman.
Là, il fallait évidemment affronter un peu cette question qui est un petit peu pénible parce que certains ont identifié complètement Charlus à contre Robert de Montesquieu, dont ils ont fait le modèle, la clé unique du personnage. Alors, à mon avis, mon humble avis, mais je crois partagé par les autorités, c'est que chez Proust, il n'y a jamais une clé pour un personnage. Il y a une lettre célébrissime à Jacques de La Cretelle, où Proust s'exprime sur la question des clés et dit... Il y a des pilotis, comme dirait Stendhal, mais toujours pluriel. Jamais un personnage romanesque ne renvoie à un modèle réel. Et il y a un échange de lettres entre Proust et Montesquieu lui-même, où cette question est débattue de manière très très intéressante, et où Montesquieu, qui avait été un petit peu, sinon fâché, du moins froissé, des rumeurs qui couraient tout Paris sur le fait que Charlus c'était lui, dit « Je sais très bien qu'un romancier puise partout des traits dans différents personnages réels pour en composer un mixte qui est de littérature et qui ne renvoie absolument pas à un seul individu dans la vie. »
Oui, alors Proust n'avait peut-être pas besoin du pilotis Montesquieu pour étayer Charlus, comme vous le dites dans votre livre. C'est peut-être... En revanche, Montesquieu, le pilotis principal.
Oui.
Alors, ce qui compte, c'est quand même que Montesquieu, lui, c'est sans doute, et quoi qu'il en dise dans la lettre que vous mentionnez, c'est sans doute senti dépeint par Proust, et cela a pu avoir des conséquences pour lui.
Il en a souffert, indubitablement, et certains critiques, je pense à Guylain de Dysbach, par exemple, dans sa biographie de Proust, ont été même jusqu'à soutenir que Proust avait assassiné Montesquieu par l'intermédiaire de Charlus, que Montesquieu était mort de s'être reconnu et de surtout de savoir qu'on le reconnaissait à travers Charlus. À quoi Jean-Yves Tadier, que vous avez reçu avant-hier, a répondu très simplement non. Proust n'est pas mort Montesquieu n'est pas mort de Charlus, il est mort de Luret. Bon, et donc, mais cela dit, il est indubitable que Charlus a été attristé et même très marri parce que il considérait que Proust avait forcé la note comique, voire grotesque. Donc comment se reconnaître dans ce que Proust lui-même caractérisait comme une caricature ? Donc c'était évidemment offensant.
Alors c'est une caricature et en même temps c'est un des personnages les plus intéressants quand même de la recherche. C'est un personnage qui a à la fois de l'intensité mais aussi de la complexité.
C'est un personnage qui n'est que complexité, c'est le personnage le moins simple qui soit. Je rappelle pour plaisanter que Proust avait écrit un article célèbre sur la simplicité de Monsieur de Montesquieu. Alors je souhaite bon courage à quelqu'un qui pourrait écrire un article sur la simplicité de Monsieur de Charlus. Parce que justement tout l'intérêt,
c'était ironique peut-être ce titre,
la richesse du personnage inépuisable, c'est que justement il est dans un clair-obscur tout à fait mouvant, il est impossible de l'étiqueter et de le réduire à une formule simple, en lui se combattent des forces, des pulsions tout à fait antagonistes, c'est un personnage qui incarne l'instabilité de l'être, en tant que grand névropathe, le mot est prononcé par Swann, Charlus est essentiellement un névropathe, ce qui signifie d'ailleurs aussi que c'est un artiste, car on ne peut être artiste que si on est au moins nerveux, sinon névropathe. Donc c'est un personnage qu'on ne peut pas fixer et qui est un tissu de contradictions ou au moins de tensions extrêmes qui empêchent toute simplification.
Alors parlons un peu de Charlus et de là où il vient. Madame de Verdurin le qualifie assez drôlement de haute époque, comme on parlerait d'une commode ou d'une armoire de style, ça lui va très bien.
Oui, mais c'est le considérer comme un meuble. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, il est un meuble. Il est haute époque, c'est-à-dire c'est une pièce. Il vient du musée. C'est une pièce de musée déjà dans le salon Guermantes. Il cultive son côté anachronique ou archaïque, en tout cas avec délectation. C'est quelqu'un pour qui la notion de modernité, de mouvement, actualité n'a pas le moindre sens, étant donné que c'est quelqu'un qui vit essentiellement sur le mode du ruminement, pour ne pas dire du radotage éternel du passé, de ses ancêtres, de son arbre généalogique, de sa race, etc. Et donc c'est quelqu'un qui est complètement absenté dans une sorte de chimère historique et en l'occurrence aristocratique, héraldique, puisque il considère même avec de haut la maison de France. Il considère qu'en France, il est évidemment, il ne doit céder le pas à personne.
Et pourtant, il n'est que, entre guillemets, baron.
Oui, alors ça évidemment, c'est Madame Verdurin fait la preuve de son inculture et de son ineptie lorsqu'on l'invite chez les Verdurin pour la première fois. Monsieur Verdurin se croit obligé de s'excuser auprès de Charlus de l'avoir placé à gauche de la maîtresse de maison seulement, alors parce qu'il y a le marquis de Cambremer ce même soir. Donc Monsieur Verdurin, vous comprenez, il est marquis, vous n'êtes que baron. Et alors bon, qu'il ne comprenne rien parce qu'il n'est pas seulement baron, il est prince.
Il est damoiseau de Montargis.
Est cousin de l'empereur d'Allemagne. Enfin, le marquis de Cambremer, c'est rien du tout à côté de lui. Et il a une formule d'une insolence géniale. Il dit à M. Verdurin, mais je vous en prie, ne vous excusez pas, cela n'a aucune importance ici.
Il est singulier qu'un certain ordre d'actes secrets est pour conséquence extérieure une manière de parler ou de gesticuler qui les révèle. Si un monsieur croit ou non à l'Immaculée Conception ou à l'innocence de Dreyfus ou à la pluralité des mondes et veuille s'en taire, on ne trouvera dans sa voix ni dans sa démarche rien qui laisse apercevoir sa pensée. Mais en entendant monsieur de Charlus dire de cette voix aiguë et avec ce sourire et ses gestes de bras « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette », on pouvait dire « Tiens, il aime le sexe fort » avec la même certitude pour un juge que celle qui permet de condamner un criminel qui n'a pas avoué, pour un médecin, un paralytique général qui ne sait peut-être pas lui-même son mal, mais qui a fait telle faute de prononciation d'où on peut déduire qu'il sera mort dans 3 ans. Peut-être les gens qui concluent de la manière de dire « Non, j'ai préféré sa voisine, la fraisette » à un amour dit antiphysique n'ont-ils pas besoin de tant de science ? Mais c'est ici qu'il y a rapport plus direct entre le signe révélateur et le secret. Sans se le dire précisément, on sent que c'est une douce et souriante dame qui vous répond, et qui paraît maniérée parce qu'elle se donne pour un homme, et qu'on n'est pas habitué à voir les hommes faire tant de manières.
«
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Charlus, c'est-à-dire aussi de Proust, et nous le faisons avec Philippe Berthier et cet extrait de Sodome et Gomorrhe qui vient de passer à l'antenne et qui est lu par Georges Claisse. Alors parlons un peu peut-être, Philippe Berthier, de l'apparence de Charlus, car beaucoup de sa personnalité transparaît évidemment dans son apparence. Qu'est-ce que Proust nous dit à ce sujet ?
Alors, Gilles Deleuze a eu une très très belle formule pour parler du corps de Charlus. Il dit c'est une Égypte, c'est-à-dire c'est un corps hiéroglyphique qui réclame des chiffrements. Tout est indice, tout est signe, mais comme les signes sont par définition ambivalents, on peut très bien se tromper, faire des contresens sur l'interprétation de son physique, parce que son physique au premier abord est ultra viril. Coiffure en brosse tout à fait militaire. Charlus est un grand sportif, il fait d'énormes randonnées à pied, il se plonge dans les torrents d'eau glacée, et il a horreur de tout ce qui est efféminé. Donc, il affiche une sorte d'hypervirilité dont un regard superficiel pourrait être la dupe. Mais sa véritable nature, qui est essentiellement féminine, transpire par tous les pores au regard perspicace. Et le narrateur en a la brusque révélation un jour qu'il surprend le baron assoupi. D'un seul coup, les défenses immunitaires s'étant relâchées, le jeu toujours extraordinairement contrôlé, ne pouvant plus exercer sa censure, la véritable nature, la femme profondément cachée et refoulée en Charlus ressort complètement, et Marcel, c'est à supposer qu'on l'identifie avec le narrateur, dit mais évidemment ça crève les yeux, le baron est une femme. Donc il y a aussi dans ses vêtements, il prend le plus grand soin de ne pas attirer l'attention. Bon, c'est évidemment le côté dandy, Brummel, être véritablement élégant, c'est ne pas se faire remarquer. Mais par exemple, il ne s'autorise aucune touche de couleur quand il a un mouchoir, une pochette, surtout pas le moindre liseré coloré qui pourrait être l'indice de quelque chose de frivole et de non masculin. Donc, une sorte de stratégie permanente d'occultation de sa nature profonde pour donner le change. Donc son corps est quelque chose de bon, il se teint bien entendu les cheveux, enfin bon, il lutte évidemment contre tous les stigmates du vieillissement pour garder une sorte de jeunesse éternelle, fantasmée, qui, imagine-t-il, dans son délire, dans son tout délire, ne finira jamais de le constituer en objet de désir. Mais le corps de Charlus est, de la part de Proust, l'objet d'une étude, d'une finesse, d'une complexité, d'une arborescence de détails absolument unique. Et il insiste surtout sur deux caractéristiques, c'est son regard et sa voix. Son regard, alors, qui ressortit absolument à une balistique.
En particulier quand il relève les moustaches. Qu'est-ce que ça change à son regard, ça?
Oui. Alors là, évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux moustaches de Montesquieu, qui sont presque déjà daliniennes avant l'âge, et dans le portrait de Boldini, par exemple. Et donc, le regard de Charlus, c'est une véritable balle. L'extrait qui a été lu tout à l'heure, le regard de Charlus transperce littéralement Marcel. Proust s'arrange pour nous faire comprendre peu à peu que c'est finalement par l'œil surtout, et peut-être pourrait-on aller jusqu'à dire presque uniquement, que Charlus fait l'amour. Et également avec sa voix, car Charlus est une diva, c'est un personnage que Proust constitue absolument en cantatrice, en star de l'opéra. Il y a les grands airs de Charlus, soprano coloratour, côté reine de la nuit si vous voulez, et avec des morceaux de bravoure sidérants et qui clouent les auditeurs sur leur fauteuil. Et alors la voix de Charlus est quelque chose de très très compliqué. Elle est toute en montagne russe, elle est bombardée, pleine de trous, tantôt il piaille comme une poule, tantôt il est caverneux comme une basse profonde, et le narrateur insiste beaucoup sur l'impossibilité de donner une assise certaine et solide de trouver un registre fixe à cette voix. Il va dans tous les sens à la fois, parce que je crois qu'il illustre à travers travers son organe vocal l'espèce d'inquiétude et d'instabilité ontologique, pour employer un mot bien pédant, qui sont les siens, ne sachant pas exactement où se poser entre masculin et féminin, se cramponnant de toutes ses forces au masculin pour donner le change à une vocation qui est essentiellement féminine, on voit que le corps de Charlus réclame interprétation.
Oui, il est tout à fait factice, sa voix est donc tout à fait factice, d'où en effet l'impression de malaise qu'elle peut donner à l'auditeur. Et tout à l'heure, quand vous disiez que le regard était finalement le truchement par lequel Charlus faisait l'amour au garçon qu'il croisait, est-ce réellement faire l'amour, n'est-ce pas plutôt finalement prendre, parce que le narrateur se dit transpercé par ce regard, et il n'y a absolument rien de réciproque, et c'est là où le personnage de Charlus est aussi intéressant dans sa grande solitude, Philippe Berthier.
Vous avez mille fois raison, c'est un désir d'emprise. L'essentiel du personnage de Charlus s'explique par un désir de possession, d'emprise sur l'autre, et je crois que c'est souvent beaucoup plus platonique qu'on ne pourrait croire. La sexualité est déviée et sublimée, en tout cas transposée dans un autre registre qu'elle-même, et c'est certain. D'ailleurs, Proust, le texte de Proust le dit explicitement. Il lui arrive de faire venir des jeunes gens chez lui et de les renvoyer sans les avoir touchés, après leur avoir fait une scène épouvantable d'où ils sortent absolument lessivés, essorés. Il a joui.
C'est en se trémoussant, avec mièvrerie, et avec la même ampleur dont un enjuponnement eût élargi et gêné ses dandinements, qu'il se dirigea vers Madame Verdurin, avec un air si flatté et si honoré, qu'on eût dit qu'être présenté chez elle était pour lui une suprême faveur. Son visage à demi incliné, où la satisfaction le disputait haut comme il faut, se plissait de petites rides d'affabilité. On aurait cru voir s'avancer Madame de Marsante, tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de Monsieur de Charlus. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine, mais à peine y était-il parvenu que, ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts, cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine, née celle-là non de l'hérédité mais de la vie individuelle. Et comme il arrivait peu à peu à penser même les choses sociales au féminin, et cela sans s'en apercevoir, car ce n'était pas qu'à force de mentir aux autres, mais aussi de se mentir à soi-même, qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment, bien qu'il eût demandé à son corps de rendre manifeste, au moment où il entrait chez les Verdurin, toute la courtoisie d'un grand seigneur, ce corps qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre, déploya, au point que le baron eût mérité l'épithète de ladylike, toutes les séductions d'une grande dame.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Vous dites que c'est un névropathe, Charlus. On pourrait presque dire que c'est une personnalité histrionique et une personnalité narcissique dans laquelle le spectacle, se donner en spectacle, constitue le centre. Il faut attirer les regards et pour cela, il faut être en représentation perpétuelle.
Ah oui, Charlus est continuellement en scène. C'est un metteur en scène génial de lui-même. D'ailleurs, le plâtras de femme et d'encaustique dont il s'enduit le visage, c'est vraiment le masque de la persona dans le théâtre antique, hein, le masque que portaient les comédiens. Ça d'ailleurs, il contribue d'ailleurs à le dépersonnaliser d'une certaine façon. Et donc, il n'est que théâtre, ce qui m'amène à dire, évidemment un petit peu par boutade, que la grande star de la recherche, c'est moins la Berma que la Charlus, parce que j'avais mon éditeur éditeur m'avait demandé de trouver une formule, si possible, attractive pour le bandeau du livre, et j'avais proposé la diva de Sodome. Il l'a refusé, indigné, en disant que c'était d'une vulgarité consommée, très racoleur, et donc ça n'a pas été retenu. Mais je le maintiens, il y a un côté vraiment diva chez Charlus, et encore une fois, qui adore mettre à ses pieds un public en extase, qui se pâme devant ses grands airs. Il y a vraiment des numéros chez Charlus, soigneusement mis au point, volontiers d'ailleurs répétés, hein, des numéros d'une rhétorique, d'une virtuosité affolante, et qui sont des encore une fois, l'équivalent des airs de bravoure du répertoire lyrique.
Ouais. Alors, diva, histrionique, narcissique, est-ce que c'est pas des qualificatifs qu'on pourrait aussi accoler à Marcel Proust lui-même? On a vu que Montesquieu était l'un des piliers qui avait inspiré évidemment le personnage de Charlus, mais il y a aussi, et sans doute beaucoup, de Proust lui-même chez Charlus, peut-être d'une manière un peu dévoyée. Philippe Berthier, qu'en pensez-vous?
Oui, alors là, il faudrait faire une psychanalyse de Proust, faudrait demander plutôt à M. Schneider demain, mais je crois que, bon, évidemment, Proust met forcément beaucoup de lui-même dans ce personnage, fût-ce pour l'éloigner de lui et s'en débarrasser, en le transformant en une espèce de guignol sublime de personnages par moments carnavalesques, parce que quelques-unes de ces tirades les plus splendides se terminent de façon calamiteuse dans le grotesque à l'état pur. Il y a vraiment un comique charlusien extraordinairement travaillé. Peut-être que Proust essaie de mettre un peu à distance ce personnage qui, par d'autres aspects, le touche de si près.
Et on pourrait même se demander dans quelle mesure il n'y a pas un fond d'homophobie chez Marcel Proust, en disant, regardez, ça c'est vraiment un homosexuel caricatural, et moi, oui, du coup, je ne suis pas à côté de lui.
Il suffit d'observer la réaction de certains homosexuels contemporains. Gide a été absolument écœuré par Charlus, et il a fait des reproches sanglants à Proust en lui disant qu'il lui serait très difficile de lui pardonner d'avoir donné de l'uranisme, comme disait Gide, une image aussi grotesque et abjecte. Donc il ne s'est pas du tout reconnu. Et certains hétérosexuels, genre Jacques Rivière ou d'autres, quand on lit leur réaction à chaud au moment de la publication de Proust, disent « Ah, nous sommes soulagés ». Jacques Rivière dit avec une certaine ingénuité « Ah, je suis soulagé, ça faisait trop longtemps vraiment qu'on me bassinait avec l'homosexualité. Vous en avez fait justice. » Et ça, je trouve que c'est très bien. Bon, il y a vraiment... beaucoup d'homosexuels ne se sont pas du tout reconnus et ont soupçonné Proust de régler des comptes comme si cet homosexuel qu'il était aussi secrètement homophobe quelque part.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Charlus lui-même, par bien des aspects, est aussi homophobe.
Ben oui, bien entendu, parce que dans ses déclarations officielles, il ne manque jamais, n'est-ce pas, d'appuyer sur les ridicules de certains de ses confrères. Mais en même temps, il est un petit peu, il est un homosexuel d'une génération ancienne qui s'estime absolument dépassé par l'évolution de ses semblables, et il reconsidère avec perplexité, une perplexité assez navrée, que les nouveaux homosexuels, si on peut dire, qui aiment les femmes aussi. Alors il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que, alors, quand on aime les femmes, qu'est-ce que ça peut représenter, un môme, dit-il. Et alors, évidemment, c'est la question que Marcel se pose ô combien douloureusement, symétriquement avec Albertine, lorsqu'il dit, voilà, pour Albert, quand on est une femme, qu'est-ce que ça peut bien signifier, une autre femme?
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et nous allons continuer de parler de Charlus avec vous, Philippe Berthier, dans quelques minutes. Mais pour l'heure, retrouvons Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
Je sais que vous êtes un grand lecteur de Proust. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce qui a été dit dans cette première demi-heure? Ou de manière générale, qu'avez-vous envie de dire au sujet de Proust?
Ce que j'ai envie de dire, c'est que Charlus pour moi, depuis toujours, représente une sorte de pôle shakespearien dans la recherche. Et c'est un carnaval shakespearien. Donc on a tout. On a absolument tout. Toute l'humanité, toutes les facettes de la profondeur humaine.
C'est-à-dire ?
Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la charlue, hein, comme bandeau possible pour votre livre. Mais dans sa façon d'être en société, charlue, c'est un spectacle permanent. Et en même temps, il y a une intimité. C'est ça la dimension shakespearienne. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'extrême extériorité, jusqu'à l'obscénité, jusqu'au carnaval. C'est vraiment, je crois, un mot qui peut convenir. Et en même temps, qui renforce paradoxalement le mystère du personnage. Qui
Philippe
est Charlie
Shakespeare
Ah oui, alors je ne peux que faire chorus avec ce que vient de dire Michel Crépu. Et c'est même explicite à la fin, dans la vieillesse de Charlus, il est comparé au roi Lear. Il est, quand on le voit dans son fauteuil roulant, poussé par son amant Jupien, qui s'occupe de lui maternellement, et il est égaré, il est un peu gâteux, plus que jamais en proie à son idée fixe homosexuelle, la référence au roi Lear est explicite.
Alors Michel, que pourrons-nous lire bientôt dans la Nouvelle Revue Française qui va sortir incessamment ?
Alors vous pourrez lire bientôt, dans une dizaine de jours.
On n'en peut plus là maintenant, on est impatient.
Je suis absolument désolé de vous infliger ce supplice. Des bonnes feuilles, comme on dit, du dernier volume à paraître de la Roue Rouge de Solzhenitsyn qui raconte le processus qui a abouti à la révolution d'octobre. Vous savez qu'on ne peut pas faire un pas dans la rue en ce moment sans tomber sur Lénine. Et donc, ce volume qui doit paraître aussi là, ces jours-ci, un énorme volume, comme toujours avec ce Solzhenitsyn.
C'est le dernier nœud.
C'est le dernier nœud. Et qui sera suivi ensuite d'un journal de la Roue Rouge, car Solzhenitsyn, non content d'avoir écrit cet énorme cycle romanesque, a tenu un journal en même temps. Ce journal n'a pas encore été publié en français.
Donc une dizaine de pages, c'est ça
une douzaine de pages, voilà. Qui effectivement, c'est la croix et la bannière pour choisir un passage significatif dans un océan. Il faudrait pouvoir donner une idée de l'océan. C'est pas facile, je dois dire. Donc c'est très frustrant. Très honnêtement, mais bon.
Également dans la Nouvelle Revue Française à paraître, une de vos jeunes collaboratrices, oui, Magali Le Sauvage.
Oui, qui a écrit un remarquable texte, une sorte d'étude sur, à partir de la récente exposition qui s'est tenue à Orsay, des portraits de Cézanne. Cette exposition maintenant est à Londres, elle sera ensuite à Washington. Et c'est pas un compte-rendu d'exposition parce que nous arrivons bien après la bataille de l'expo elle-même. Mais il y a un travail très passionnant à suivre avec Magali Le Sauvage sur cette question du visage chez Cézanne qui est lui aussi relève à la fois du masque et de quelque chose qui est le mystère du visage humain, mais les deux en même temps. Et cette question du masque, évidemment, moi, m'a passionné à lire cette étude parce qu'elle renvoie aussi à des questions qui touchent naturellement à l'identité, que dit le visage de notre personne. Surtout quand c'est un masque et que le masque donne le sentiment, au contraire, qu'on est au plus profond de l'intimité.
Et ça, sans doute que sur cette question, Charlus aurait eu beaucoup à dire.
J'allais vous le dire.
Merci Michel Crépu, à très bientôt.
Merci.
Seconde partie de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons du personnage de Charlus chez Proust avec Philippe Berthier qui vient de lui consacrer un essai publié aux éditions de Fallois. Charlus qui était, pour André Mauroy, rien moins qu'un personnage monstrueux.
Nous avons remarqué que l'homme rit toutes les fois que il est effrayé par quelque chose, la mort, le snobisme, et qu'on le rassure en lui montrant que ce quelque chose n'est pas tellement terrifiant et que par conséquent, un sentiment de sécurité succède. Mais lorsque l'objet apparaît comme trop terrifiant, alors nous n'avons plus ce sentiment de sécurité et au lieu de voir un personnage comique, nous voyons un monstre. Et c'est ce qui arrive pour M. Charlus. Et c'est un fait important que dans toutes les réellement grandes œuvres, il y a presque toujours un ou plusieurs monstres. Et que ces personnages, qui sont à la fois surhumains et humains, sont ceux qui dominent l'œuvre et qui lui donnent une incomparable unité. Tel est le cas de Vautrin dans Balzac. On le sent partout, à l'arrière-plan, effrayant et grand. Tel est celui de Charlus dans Proust. Le monstre ouvre des fenêtres sur de mystérieuses profondeurs parce que nous ne pouvons pas le comprendre entièrement. Il nous dépasse, ne fût-ce qu'en horreur, et pourtant il y a en lui des éléments qui sont aussi en nous. En d'autres circonstances, nous aurions pu devenir ce qu'il est, et cette idée qui demeure en nous inexprimée nous effraie et nous fascine. Les monstres donnent au roman des dessous inexplorés qui vont au sublime.
Charlus, qui est au-delà de l'humour, nous dit André Mauroy, il est ce monstre sublime.
Ah oui, monstre absolument, mais au sens de monstre sacré. Ne nous trompons pas. Bon, il est monstrueux, il n'est pas plus monstrueux que vous et moi. C'est un homme, tout simplement, et qui a des caves, comme chacun d'entre nous, et puis aussi qui a des greniers très très lumineux et qui a. J'ai tenu à insister dans mon étude sur l'idéalisme et même la spiritualité de Charlus. Parce que évidemment, on se focalise toujours sur le bordel de Jupien, les séances de torture masochiste, etc. Dont j'ai essayé de souligner le côté hilarant. Truqué d'un bout à l'autre et vraiment absolument bidon pour parler vulgairement.
Pourquoi c'est bidon comme ça ?
Comment ?
Pourquoi est-ce bidon ?
Eh bien, c'est bidon parce que personne n'y croit. Les bourreaux qui font souffrir Charlus sont de braves gars.
Oui, ils n'ont pas envie en fait.
Qui gagnent leur vie, leur chienne de vie, et qui sont gentils comme tout, qui feraient pas de mal à une mouche. Alors on fait croire à Charlus qu'ils ont tué leurs parents, oui. Que ce sont des dangereux assassins.
Que ce sont des apaches de Belleville.
Voilà. Alors ça l'excite follement, évidemment, parce que il y a chez le grand seigneur qui est de père à compagnon. Avec ce qu'il y a de plus haut dans l'aristocratie européenne, un goût invétéré de la crapule. Il n'y a rien de plus ragoûtant au sens littéral du mot que de se commettre, évidemment, avec ses bas-fonds. Mais tout ça est encore une fois truqué. C'est du cinéma ou du théâtre et on n'y croit pas une seconde. Et d'ailleurs, le baron lui-même, Proust sème les indices qui ne laissent aucun doute. Le baron y croit à peine lui-même. Simplement, ce qui lui suffit, c'est d'avoir dans cette maison d'illusion, la bien nommée, d'avoir une illusion pendant quelques instants.
Est-ce que c'est ça qui est tragique aussi dans ce personnage, ou est-ce que finalement ça n'est pas tragique, c'est la vie qui est comme
non,
ça ?
Non, c'est tragique bien entendu, parce que Charlus ne trouve jamais un partenaire, un compagnon, quelqu'un qui lui réponde et avec qui il puisse faire couple, quelqu'un à aimer. Bon, il a d'innombrables rencontres érotiques, mais qui, comme lui dit Jupien, non sans amertume, vous avez un cœur d'artichaut, et donc que peut-être tout simplement n'est-il pas fait pour le grand amour. Alors, il va connaître un grand amour avec le violoniste Charles Maurel, et ça va être évidemment pour lui l'échec le plus douloureux. Et ce que Proust nous montre admirablement, et c'est vraiment très bouleversant, c'est que là où il entre vraiment dans le royaume à la fois maudit et sublime de la souffrance véritable, c'est pas la souffrance physique que lui inflige contre rétribution des bons garçons qui font ce métier-là comme ils feraient autre chose, mais c'est quand il est véritablement épris totalement d'un être qui le refuse, qui le repousse et même qui l'humilie. Ouais. Donc là, il comprend, il entre véritablement en souffrance, parce qu'il entre en amour.
Une très grande cruauté, en fait, de ce personnage de Morel vis-à-vis de Charlus, qui pousse son avantage le plus loin possible.
Bien entendu, c'est le malentendu éternel entre quelqu'un qui aime et qui aime quelqu'un qui ne l'aime pas. C'est aussi simple, si on peut dire, et aussi bête que cela. Et c'est ce qui donne à Charlus, je crois, vraiment un poids d'humanité dans lequel tout le monde peut se reconnaître, parce que là, le fait que ce soit entre deux hommes n'est pas fondamentalement définitoire. Ça peut se passer entre tout le monde, entre des personnes de sexe tout à fait différent. Et donc, c'est simplement la tragédie de ne pas être aimé.
Mais est-ce que le vrai partenaire de Charlus, ce ne serait pas tout simplement Madame Charlus, Philippe Berthier ?
Alors, Madame de Charlus, ça m'a beaucoup fait rêver, parce que vous savez, Roger Nimier avait dit de Madame Récamier, c'est une grande star du muet, parce qu'on ne l'entend jamais. Eh bien, pour Madame de Charlus, on ne l'entend absolument pas. Elle est morte, et on saura très... J'ai essayé de ramasser, de colliger un peu ce qu'on sait sur elle. C'est très peu de choses, sinon que le baron l'a adoré et que il a été inconsolable de sa mort, qu'il allait tous les jours au cimetière, etc., qu'il ne peut pas l'évoquer sans pleurer.
Et là, on n'est pas dans le théâtre, selon vous ?
Alors, pas forcément. Qui peut dire que c'est insincère, que c'est de la comédie ? Moi, en tout cas, je ne me reconnais
pas. En tout cas, Proust ne le dit pas.
Je ne me reconnais pas le droit de le dire, parce que ce personnage est d'une telle complexité, d'une telle humanité, qu'il peut à la fois avoir bafoué son épouse tant et plus, et l'avoir profondément et sincèrement aimée, et même, j'irai plus loin, l'avoir rendue très heureuse.
Et ne lui a pas donné de rival, d'ailleurs, femme.
Évidemment.
Et c'était quelqu'un de très attentionné aussi avec elle. Alors, on a été beaucoup à charge, entre guillemets, avec ce pauvre Charlus. Enfin, c'est pas de notre faute, c'est Proust qui nous conduit à ça. Mais vous soulignez quand même que c'est un personnage qui a une variété de dons tout à fait exceptionnels, et que c'est quelqu'un qui comprend l'art finalement mieux que personne.
Ah oui, mais c'est un artiste dans l'âme. C'est ce qui fait son immense supériorité sur les gens de son monde. Par exemple, par rapport à son frère Bazin de Guermantes, le duc de Guermantes, c'est un aigle. Le baron de Charlus est un très bon musicien, c'est un peintre, c'est un grand couturier, il a absolument tous les dons, comme Robert de Montesquieu les avait. Simplement, là où ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est qu'il n'en fait rien. Et Proust, là, le souligne avec une certaine cruauté également, de ses dons, il n'aura rien su faire de productif.
Si ce n'est c'est un faire de sa vie une œuvre.
C'est un dilettante admirable, merveilleux, à 100 coudées intellectuellement au-dessus du niveau de ses pairs dans la société mondaine et aristocratique de son temps. Évidemment, il plane à des hauteurs. C'est un homme extrêmement cultivé, ça, mais il manque d'application et il ne laissera aucune œuvre.
Est-ce que Proust suggère une explication à ce dilettantisme?
Oui, je crois qu'il suggère le fait que Charlus a été incapable du sacrifice qui est absolument indispensable si l'on veut devenir un créateur. Et lui, il est payé pour le savoir. À tant de choses, Proust a dû renoncer pour s'enfermer dans sa chambre et pour écrire, ce que Charlus est absolument incapable de faire.
Il est vrai que ces sons étaient si violents que, s'ils n'avaient pas été toujours repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi et qu'ensuite le meurtrier et sa victime ressuscitée prenaient un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Surtout quand s'y ajoute, à défaut de la peur d'avoir des enfants, ce qui ne pouvait être le cas ici, malgré l'exemple peu probant de la légende dorée, des soucis immédiats de propreté. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, pendant laquelle je m'étais hissé à pas de loup sur mon échelle afin de voir par le vasistas que je n'ouvris pas, une conversation s'engagea. Jupien refusait avec force l'argent que M. de Charlus voulait lui donner. Au bout d'une demi-heure, M. de Charlus ressortit. « Pourquoi avez-vous votre menton rasé comme cela ? » dit-il au baron d'un ton de câlinerie. « C'est si beau, une belle barbe. »« Fils, c'est dégoûtant, » répondit le baron. Il considéra la figure du baron, grasse et congestionnée sous les cheveux gris, de l'air noyé de bonheur de quelqu'un dont on vient de flatter profondément l'amour-propre. Et se décidant à accorder à M. de Charlus ce que celui-ci venait de lui demander, Jupien, après des remarques dépourvues de distinction telles que « Vous en avez un gros pétard », dit au baron d'un air souriant, ému, supérieur et reconnaissant « Oui, va, grand gosse ».
La compagnie des auteurs sur France Culture et cette scène de la rencontre surprise par le narrateur entre Jupien et Charlus. C'est une scène, Philippe Berthier, sans phare et on imagine mal aujourd'hui ce qu'il a fallu d'audace finalement à Proust pour l'écrire, ou de manière générale, pour écrire Sodome et Gomorrhe. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors c'est certain, aujourd'hui, où l'homosexualité, je ne dirais pas, est banalisée, mais presque à l'heure du mariage pour tous, on a besoin vraiment d'un effort d'accommodation intellectuelle pour comprendre la charge subversive et qui était celle de pareille description ou évocation, quoique, évidemment, il ne faut pas non plus la surestimer. Nous avons un échange de lettres avec Montesquieu, justement, où Montesquieu lui dit, en somme, en termes évidemment plus soutenus, « Petit malin, vous avez mis la main sur un sujet dans le vent. Hein, c'est dans l'esprit du temps et vous pouvez vous apprêter au gros tirage parce que Sodome et Gomorrhe, tout le monde nous a jeté dessus, ça excite tout le monde. » Et évidemment, dans la littérature, le thème de l'homosexualité depuis 1880, disons, c'était extrêmement répandu. Et alors, on voit des lettres assez touchantes dans un sens ou comique de Proust essayant d'appâter les éditeurs disant « Mon livre est très indécent, mon livre est même obscène, enfin il n'est pas pornographique, mais il est vraiment extraordinairement choquant. » Et alors il est tout, presque déconfit lorsqu'il écrit à certains correspondants « Oh mais non, ça passe très bien, tout le monde avale ça comme une bondieuserie, comme si la charge de scandale était désamorcée par l'évolution des esprits. » Cela dit, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nul avant Proust n'avait dans une œuvre de cette ampleur et de cette portée fait à l'homosexualité cette part absolument énorme, essentielle, puisque au fur et à mesure que la recherche se développe, on dirait que ça prend de plus en plus de place. Cela dit, encore une fois, Proust ne s'est absolument pas proposé de publier c'est pas un livre militant, ça n'a rien d'un texte militant. Il ne s'agit pas de défendre et d'illustrer l'homosexualité contre la répression hétérosexuelle, mais il s'agit de faire une étude à partir de cas précis, individuel, fût-il extrême comme celui du baron de Charlus, faire une étude générale, profonde, d'ensemble, sur ce que c'est que le désir et le choix de l'objet du désir, à supposer qu'on choisisse l'objet de son désir, car choisit-on l'objet de son désir et choisit-on d'ailleurs son destin. Et donc là, de ce point de vue-là, évidemment, l'œuvre de Proust est fondatrice. On n'a jamais fait plus et mieux.
Donc, finalement, la rupture qu'il apporte par rapport à la littérature précédente sur l'homosexualité, c'est cette dimension théorique.
Oui, alors simplement au début, Sodome et Gomorrhe, je ne dirais pas qu'il y a une sorte de traité théorique, mais enfin, il y a quand même des développements très longs qui sont où Proust prend de la hauteur et essaie de proposer une analyse générale et à la fois esthétique, sociale et philosophique de ce que c'est que le désir du même pour le même. Et donc là, je crois que ces développements, ils sont radicalement neufs et, mon humble avis, je ne sais pas si on a fait mieux depuis.
Oui. Il y a deux scènes très importantes dans Sodome et Gomorrhe et que vous citez comme étant des scènes inédites, novatrices. La première, c'est la description de ce qu'on pourrait appeler la pollinisation de Jupien par le baron dans la cour de l'hôtel de Guermantes avec le narrateur qui, caché, la regarde. Pourquoi est-ce que c'est pour vous une scène particulièrement importante ?
Parce que c'est une scène extrêmement crue. Je crois que vraiment le scénario voyeuriste a rarement été exploité de manière aussi géniale et aussi dérangeante. Et en même temps, ce qui est c'est très beau, c'est que c'est le mélange du sordide. On nous fait pas grâce des bruits de tuyauterie et de plomberie, des ablutions post-coïtales. Et en même temps,
là, on est dans le sordide, on est dans l'humour.
Dans une grande dose d'humour, évidemment. Et en même temps, c'est splendide parce que le narrateur est ému, profondément ému, en disant « il se passe là quelque chose de grand et de beau ». C'est-à-dire que deux êtres dont les corps étaient qui n'auraient jamais dû se rencontrer, dont les trajectoires n'auraient jamais dû normalement s'intersecter, qui se rencontrent, doit-on dire par hasard, ou est-ce que cette rencontre obéit à une nécessité incompréhensible et supérieure, se trouvent et se reconnaissent, faits l'un pour l'autre, au moins physiquement, pour goûter ensemble une part de bonheur dans cette vie, dans ce monde. Et ça n'inspire pas la dérision, ni la moquerie. C'est émouvant et c'est très humain.
Et puis la deuxième scène, on en a déjà parlé, c'est la scène dans le bordel pour hommes, oui. Toujours de Jupien, où le narrateur surprend Charlus, enchaîné comme Prométhée,
oui,
sur
alors
son rocher.
Là, rions, parce que véritablement, frapper. Oui, la référence à Prométhée voudrait donner une dignité presque mythique à une scène qui relève vraiment, de, encore une fois, d'un porno parodique. Et donc, je crois que là, c'est le baron qui veut se croire la proie d'un vautour et se mythifie lui-même. Mais tout est raconté avec un tel degré d'ironie que véritablement, il y a beaucoup de méchanceté dans quelque chose qu'au fond, Proust, évidemment, se sent quand même solidaire. Il ne peut pas ne pas se sentir solidaire. Et pourtant, il a, disons, cette impartialité de créateur et d'artiste de reconnaître toute la part, disons, d'inauthenticité et même de ridicule qu'il peut y avoir dans quelque chose qui, au fond, ressortit un besoin pathétique d'idéal.
Et vous parlez du Charlus chrétien. Parce que quand il sort du bordel, il va à l'église. Enfin, pas directement, mais rapidement. Et pourquoi ça?
Écoutez, moi, c'est un sujet que j'ai, enfin, c'est un aspect que j'ai voulu souligner. Il me semble qu'il avait été un peu minoré. Charlus a la foi du charbonnier, il croit comme un primitif. J'explique qu'évidemment, quand on est ce qu'il est par l'injustice ou le hasard de la naissance, on reçoit la religion chrétienne, la religion catholique en naissant. Baptême oblige. Comme noblesse oblige, et ne vient pas évidemment à l'esprit un instant au baron que la vie très peu édifiante qu'il mène puisse entrer en contradiction avec une foi religieuse que je considère comme très authentique. Charlus dialogue de père à compagnon avec l'archange Saint-Michel, son protecteur personnel, avec son ange gardien. Il sait qu'il pêche, mais il n'a pas fait d'études de théologie, je pense, mais il a une sorte de conviction instinctive, une sorte de confiance instinctive dans les ressources infinies de la grâce. Et il me semble qu'on peut vraiment, sans forcer la note, évoquer un personnage pascalien, lorsque Pascal parle du cœur plein d'ordures de l'homme. Mais ce cœur plein d'ordures, il peut être racheté, il peut être rédimé. Et saint Augustin a dit, n'est-ce pas, « Etiam peccata », même les péchés. Hein, et puis Luther, que le baron de Charlus n'aime sûrement pas beaucoup, a dit quand même cette phrase.
Il n'est pas protestant quand même, Charlus, n'allons pas jusque-là.
Mais Charlus est un peu allemand, comme vous savez, c'est un prince allemand, il est fils d'une duchesse de Bavière. C'est d'ailleurs pourquoi pendant la guerre, on le suspecte de modérantisme et il n'est pas aussi anti-germanique que beaucoup le souhaiteraient. Luther a dit « Pecca fortiter, sed crede fortius ». Pêche avec énergie, mais crois avec plus d'énergie encore. Cette formule, à mon avis, c'est tout Charlus.
Oui. On pourrait terminer en évoquant le double de Charlus. C'est une histoire un petit peu amusante, quoique anecdotique, dans la recherche, Philippe Berthier, qui est ce double de Charlus.
Ah, écoutez, alors j'ai découvert ça, sans doute ça avait été découvert bien avant moi, naturellement. C'est un fétu de paille dans cet immense océan, mais il y a un autre baron de Charlus à Paris, en même temps que lui. Non, il n'est pas baron, il est comte. Un autre Charlus qui partage les mêmes goûts et qui se fait passer pour lui, qui joue sur une confusion d'identité. Et alors, qu'est-ce qui a poussé Proust à imaginer ça? Parce que c'est tout à fait périphérique et anecdotique. Ce personnage n'intervient pas vraiment. Enfin bon, il a imaginé qu'il y avait une sorte de double fantomatique.
Mais alors qui est gênant au départ, parce qu'évidemment, oui, il a une mauvaise réputation, ce double, oui, mais qui s'avère, oui, finalement assez pratique quand, oui, c'est Charlus qui finalement devient lui-même pire que son double, c'est-à-dire quand son comportement devient pire que celui de cet homonyme. Alors là, évidemment, c'est plus pratique de pouvoir rejeter la faute sur lui.
Voilà, chacun a une ombre, hein, et donc qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, c'est peut-être un effet de mise en abîme, vertige identitaire, à chacun de l'interpréter, de le rêver.
Merci beaucoup Philippe Berthier pour ce portrait du personnage fascinant de Charlus. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un essai dont il est le héros, publié cette année aux éditions de Fallois et qui s'appelle Charlus. Avant cela, vous aviez consacré un essai à son neveu Saint-Loup, on l'a dit, il est disponible également chez de Fallois. Et demain, eh bien, c'est le dernier épisode de notre semaine consacrée à Proust. Nous recevrons deux écrivains, Michel Schneider et Pierre-Yves Leprince, pour parler chacun de leur livre en rapport avec Marcel Proust. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonnaffé qui lit la poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous célébrons l'anniversaire de la Révolution d'octobre 17. Deuxième toast à la Révolution avec des poèmes de Sergueï Essénine, Bertolt Brecht. Brecht, l'espoir du monde. L'oppression est-elle aussi vieille que la mousse au bord des étangs? La mousse au bord des étangs, on ne peut l'éviter. Peut-être tout ce que je vois est-il naturel, et peut-être est-ce moi qui suis malade à vouloir que soit ôté ce qu'on ne saurait enlever. J'ai lu des chants égyptiens, les chants de ceux-là qui ont bâti les pyramides. Ils se plaignaient du poids des charges et demandaient quand l'oppression allait finir. C'était il y a 4000 ans. L'oppression est sans doute, comme la mousse, inévitable. Oui, Berthold, l'espoir du monde. Mais Boris, l'autre jour vous nous aviez promis Boris Pasternak. Je n'oublie pas les poèmes de ma sœur La Vie. Oui, j'avais promis, oui, après la révolution d'octobre, après les drapeaux rouges, la colère et la célébration des premiers soviets, la rêverie du poète et les cataplasmes du bon docteur Jivago. Festin, je bois la tubéreuse amère et l'amertume des cieux bas de l'automne et de tes trahisons. Des soirs, des longues nuits, des assemblées nocturnes, votre amertume humide aux strophes pamoisons. Suppôt des ateliers, nous déclarons la guerre au pain du quotidien, n'aimant que les banquets. Le vent inquiet des nuits et les chansons des vers, bu à ce qui peut-être n'adviendra jamais. Hérédité et mort, on part à nos agapes, et quand l'aube rougit les arbres par le haut, l'anapeste sourit furette sur la nappe et Cendrillon pressé reprend ses oripeaux. Le sol est balayé, épousse-t-elle les restes, le verre est apaisé comme un baiser d'enfant, et Cendrillon s'enfuit en fiacre les jours fastes, quand elle est sans le sou à pied tout simplement, par-dessus les obstacles. Par-dessus les obstacles de Boris Pasternak, oui, par-dessus les obstacles, il semble voir venir la révolution. Cette nuit-là, restait de veille, mon esprit, on frappa, j'ouvris. Par la fenêtre, la tempête engouffrait son violent récit. Ainsi murmure vent et neige, susurrent les indices, quand ici, c'est la copie exsangue, là-bas, l'original en sang. Poème de Brecht. L'enfer de ceux qui ont déçu, laissant derrière nous l'enfer des gens déçus, nous gagnâmes l'enfer de ceux-là qui déçoivent. ville grise remplie des cris de ses marchés, gens rencontrés qui avaient perdu leur visage. Ils détournaient les yeux lorsque nous les croisions, et ils pressaient le pas si nous les suivions. Mais nous les voyions, vêtus de vêtements coûteux ou bon marché, jeunes et vieux, hommes et femmes, beaucoup montraient encore les traces anciennes d'une grande beauté qui avait bien pu plaire, des fronts intelligents et c'est le plus troublant, les restes d'un sourire inspirant la confiance.
Merci Jacques Bonafé.